j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de migrants. Je pense que c'était des Érythréens ou quelque chose, parce que c'était beaucoup d'Africains, de Noirs. C'était Noirs. J'ai vu qu'il y avait quelques Tunisiens, quelques Algériens, comme je comprends l'arabe. Bon, on voyait que c'est des gens très simples, très humbles, comme ça, qui avaient l'air très, très calmes. Ça n'avait pas l'air d'être... Et puis, j'ai vu qu'ils lisaient en arabe, ça m'a étonnée. Et par contre, j'ai vu quand ils les ont pris, quand ils les ont dégagés, là.
Ça se passait super bien. Il y avait même nos étudiants qui ont fait un projet là-dessus. Et ça posait aucun problème, hein. Enfin, le contraire, ils étaient assez sympathiques. Ils ont animé un petit peu l'endroit, et puis leur départ, on était un petit peu tristes. Enfin, tristes d'un côté, et puis de l'autre côté, enfin, je pense que c'est une bonne chose pour eux.
Moi, je travaille là. En fait, ils n'étaient pas agressifs, mais c'est l'occupation qui était un peu devenue difficile à supporter parce qu'il n'y avait pas d'endroit où vraiment aller se satisfaire pour les besoins. Il y avait des odeurs un peu partout. Là, il faut dire que c'était un peu compliqué pour ça. Sinon, à part ça, ils n'étaient pas agressifs. Ils étaient sympas, tranquilles, nous on fait de la sécurité, ils étaient là tranquilles. Le matin, ils vont où ils vont et après, le soir, ils viennent, ils dorment. Ouais, c'était tout.
Et j'ai vu aussi qu'il y avait des associations qui venaient, qui leur donnaient des cours d'alphabétisation. Puis il y avait d'autres qui leur en donnaient à manger. Puis il y avait même des gens qui avaient mis des banderoles pour dire « soutenez-nous ». Voilà.
On nous a appelés pour dire qu'il y a une évacuation qui va se faire, qu'il y a des migrants qui sont venus loger là. Au départ, il y avait un groupe là. Après, ça s'est étendu jusqu'au l'autre côté. Et je ne peux pas dire au nombre de combien ils étaient. Il y avait la police qui passait tout le matin pour les compter, pour voir s'il y avait des gens qui s'ajoutaient ou pas. Ils sont venus avec des camions, il y avait les CRS, ouais, et on a procédé à l'évacuation.
Il y avait des camions partout, ils étaient habillés comme des cosmonautes, là. Je peux en dire qu'ils avaient peur d'attraper je sais pas quoi. Et puis ils les ont évacués, ça a duré 2 jours ici. Il y avait des camions de CRS, des poubelles, il y avait de tout pendant 2 jours. Et ça, après, il n'y avait plus personne, ils les ont tous...
Quand ils sont partis, ils ont mis des grillages là-bas pour empêcher qu'ils viennent encore s'installer. Là, vous avez un médecin qui est là-bas avec la voiture qui est garée juste au fond là-bas, qui vérifie pour ne pas qu'ils reviennent. Ça va faire un mois maintenant. Ils ont occupé les espaces avec des grilles pour ne pas qu'ils viennent encore déposer les tentes. Donc les tentes ont été enlevées par la mairie et voilà, ils sont partis avec.
De temps en temps, il y a d'autres qui viennent chercher à dormir. On nous dit de ne pas les laisser dormir sur le quai, bah, c'est bon. Ça fait pas une bonne image pour. Voilà, parce qu'ils avaient sali le coin, tout ça, bon, tu vois. C'est pour ça qu'on est là.
Ce que j'ai vu surtout, c'est qu'ils ont fait les poubelles, ils ont nettoyé. Mais eux-mêmes, je ne les ai pas vus. Quand je suis passé, il n'y avait plus personne. Hein. Je pense qu'ils les ont pris à 6h du matin.
Hein. On nous a dit qu'ils partaient dans un centre d'accueil. Voilà ce qu'on nous a dit. Donc nous, on ne sait pas la destination.
D'après ce que j'ai entendu, il y en a dans le 18e, ils ont mis dans des foyers ou je ne sais pas quoi. Il y a des ministères qui ont mis à leur disposition des immeubles.
Intégration, ce sera le mot, le concept.
Mais le chemin de l'intégration est semé d'embûches, d'expulsions,
d'atteintes aux libertés.
Forte population immigrée.
Brutalement expulsée de France vers leur pays.
L'attribution de la nationalité française aux étrangers.
Le thème de l'immigration est désormais une arme électorale.
C'est l'heure de la rigueur aux frontières.
Contrôler les flux d'immigration pour mieux intégrer.
La chasse aux clandestins. 135 000 étrangers sans papiers sont régularisés. L'intégration, l'adversaire résolu de l'intolérance. Les outils de l'intégration et du consensus en fermant les frontières.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Nous sommes ici ce soir à l'espace de la vie étudiante de l'UPMC, Université Pierre et Marie Curie à Jussieu, en compagnie de Sven et Absa, animateurs hors du commun, et Jules, le roi de la technique. Comme vous venez de l'entendre à travers quelques courtes interviews, nous allons parler ce soir avec vous d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et c'est vrai que ça touche des personnes qui sont comme nous, aussi bien des mamans, des enfants, des frères ou des sœurs. Ils fuient la guerre qui a peut-être déjà commencé à dévaster leur famille. Ce sont des ingénieurs, des infirmières, des professeurs et beaucoup d'étudiants. Ils risquent leur vie pour échapper à la guerre de leur pays et offrir la sécurité à leurs proches. En effet, nous allons aujourd'hui aborder le thème de la situation des réfugiés en France. Cette émission est réalisée dans le cadre d'un atelier de découverte de la radio et nous, étudiants, avons souhaité partager avec vous notre travail. Celui-ci a consisté à effectuer des interviews auprès de personnes de tous les horizons, dans différentes situations et avec des opinions sur le sujet très variées, mais qui regardent dans le même sens le plus souvent. Nous venons de vous faire part de l'avis de passants qui ont répondu sur les quais de Seine à côté de la Cité de la Mode, et nous allons vous présenter par la suite des points de vue d'étudiants interrogés dans l'UPMC. On aura également la chance d'accueillir parmi nous Bouchra Djellab, présidente de l'UNEF, Union Nationale des Étudiants de France, et Omar Diallo, chargé de l'accueil des étudiants étrangers à l'UPMC. Avec cet entretien, on pourra mieux comprendre la situation d'étudiants dans ce cas. Sven nous fera une chronique sur les associations qui aident les réfugiés. On aura des témoignages de personnes engagées pour la cause, comme des étudiants, des musiciens, et dans cette catégorie, nous serons avec un rappeur, Tarafa, plus connu sous le nom de Liquide. Comme promis, nous allons maintenant écouter le point de vue d'étudiants à l'UPMC à la question « Que feriez-vous pour aider les réfugiés à votre échelle ?»
Tout d'abord, je commencerai par leur donner un endroit où ils peuvent se sentir chez eux, stable.
Je mettrai en place des gymnases, des machins pour les accueillir vite fait et après les accueillir mieux dans d'autres places, pas à Paris, mais... En région, quoi.
Bah, je pense que je pourrais l'accueillir chez nous. Enfin, on a un peu de place, on a un lit, on pourrait l'accueillir. Et puis j'essaierai de le motiver pour faire des études, un petit job histoire de payer une petite part de loyer.
Lui prêter peut-être un toit pendant un certain temps, si j'ai vraiment la place chez moi. Sinon, faire une donation ou apporter un soutien d'éducation, comme apprendre le français ou des choses comme ça. Voilà le genre de choses que je pourrais faire.
Moi, pour l'instant, je suis en colocation avec une vieille dame. En ce qui concerne le faire loger chez moi, je pense que ça va être difficile, mais je peux contribuer à l'éducation de leurs enfants en leur faisant des cours accélérés de maths ou de physique. Comme je peux aider leurs parents à me poster quelques annonces, trouver du travail.
Non, je sais pas, ça dépend des moyens de chacun. Tu aides en fonction de ce que tu as. Et nous, on est étudiants, on a de la chance pour la plupart, on est en thèse, on a un petit salaire et tout. Mais malheureusement, on a souvent des logements très petits, on peut loger personne. Et puis tout ce qu'on peut faire, c'est un peu donner aux assos, mais ça s'arrête là malheureusement. Je pense qu'on est des mauvais exemples ici, parce qu'en fait, on a quasiment plus de temps libre, on est en thèse en fait. Voilà. Voilà, non, ça s'arrête là. Moi, je peux pas faire grand-chose de plus en fait.
Je pense qu'au niveau financier, j'essaierai de donner des organisations qui aident les migrants, quoi. Et puis pas financièrement, en participant à des mouvements... dans le but d'aider ces migrants-là, distribuer des fringues, de la bouffe, des trucs dans le genre. Parce que je pense qu'on a plus de poids quand on est tous ensemble que des petits actes indépendants. Enfin, c'est bien sur le moment, mais après, au long terme, un acte individuel n'est pas aussi bénéfique que les actes collectifs.
Le plus simple, c'est de donner de l'argent. Enfin, d'essayer de donner des financements à des associations qui pourront... Parce que moi, de manière ponctuelle, je pense avoir moins d'impact que plusieurs associations qui sont aptes à... Ah, où il y aura plusieurs personnes qui pourront aider donc un plus grand nombre de personnes. Moi, je sais très bien que j'aurai un impact relativement limité, donc à ce moment-là, je préfère essayer de financer des associations qui le pourront. Puis après, ça peut aussi concerner les enfants, je sais pas, pouvoir aider les enfants qui vont aller à l'école. Ça peut être en fait plein de choses, hein, mais moi, je pense que je me tournerai plus vers les enfants.
Chacun peut faire quelque chose quand même. Même si c'est 2 centimes ou 1 euro, c'est quelque chose quand même. Si chacun donne 1 euro, ça sera une somme signifiante. Même si c'est pas beaucoup, mais quand même, ça pourrait faire quelque chose.
Ce qu'ils ont le plus besoin, c'est d'avoir des papiers, comme tout le monde. Donc, ils puissent travailler, intégrer la société comme il faut. Donc, à part ça, moi, je vois pas autre chose, quoi. On peut pas les aider éternellement. Ça dépend de la durée. Si c'est pour 1 an, 2 ans, on peut les aider. Mais on sait pas quand est-ce que la guerre va finir, ou je sais même pas. Là, tout le monde est débordé, quoi. Ça se voit. Mais on peut tout simplement les aider pour un laps de temps, mais on ne peut pas les aider éternellement. Ils peuvent s'intégrer, trouver un boulot comme nous, quoi. Parce que nous aussi, c'est ce qu'on fait. On travaille à côté, quoi, juste pour subvenir à nos besoins. Mais on ne peut pas les aider tout le temps, quoi. Ça ne peut pas continuer.
Quand même, l'État a peut-être la possibilité de les aider, quoi. La capacité quand même de les aider.
On est toujours sur Radio Campus Paris avec une émission sur la situation des réfugiés en France. Et nous venons d'écouter des étudiants qui nous parlent de leur vision sur le sujet. Nous allons maintenant passer à un entretien avec la présidente de l'UNEF de Paris 6, Bouchra Djellab. Cette session va être menée par Afsa Yorental. À vous.
Merci Eleonore. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette rubrique Entretien. Avec nous sur plateau aujourd'hui Bouchra Gelab, présidente de l'Union nationale des étudiants de France, section locale de Paris 6, et également vice-présidente de l'Union des étudiants algériens de France. Bonsoir Bouchra.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation à rejoindre notre plateau. Normalement, on était censé recevoir aussi M. Omar Diallo de la direction des relations internationales de l'UPMC, qui est chargé de l'accueil des étudiants et des chercheurs étrangers qui viennent à l'UPMC. Mais malheureusement, il n'a pas pu venir, mais il a quand même tenu à répondre à nos questions par mail interposé.
Et on va passer tout de suite avec la première question, Bouchra. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots l'engagement de l'UNEF envers les étudiants réfugiés ?
Donc, bonsoir à tous d'abord. Et l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Pour expliquer un peu, c'est un syndicat étudiant qui porte trois missions au quotidien. Informer, défendre et organiser la solidarité. Donc on a cette action vis-à-vis des étudiants réfugiés parce qu'on pense que la priorité, c'est l'accès à l'enseignement supérieur pour tous. Durant ces derniers mois, et même ces dernières années, on a eu un véritable accompagnement des réfugiés. Dans les universités, ça s'exprime par exemple pour aider à faire les dossiers d'inscription. On va faire des permanences PDI, c'est-à-dire pôle de défense individuelle, où on va recevoir les étudiants réfugiés et tous les étudiants pour les aider. Ensuite, on a dans des universités comme Paris 1 et Paris 8, des choses qui ont été mises en place au sein des conseils. Comme on est élu dans les conseils, comme le conseil d'administration, CFVU, etc., il y a des choses qui ont pu être votées. On a pu appuyer des motions, comme à Paris 8, pour que un étudiant réfugié, quand il vient n'importe quand au cours de l'année scolaire, puisse se faire inscrire. On a une activité à la fois nationale et locale. De manière nationale, ça va se traduire par des rassemblements. Ça va être par exemple l'intervention de notre président national William Martinet sur la question via des interviews et pour aussi un peu bouger les politiques pour qu'ils réagissent face à cette situation. De manière locale, ce qu'on a fait par exemple à Paris 6, c'est tenir une table pour collecter des vêtements, des médicaments, des denrées alimentaires, du savon, n'importe quoi, et on allait les distribuer au sein des camps de réfugiés.
Donc en parlant justement de l'inscription des étudiants réfugiés au sein de l'UPMC, j'ai pu poser la question à M. Omar Diallo, qui malheureusement n'est pas là, et donc il m'a répondu que si un étudiant ou une étudiante avait ce statut de réfugié qui est délivré par l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ou elle a le droit de s'inscrire à la fac. Qu'est-ce que t'en penses ? L'UNEF, tu as dit, se charge justement d'aider les réfugiés pendant leur inscription, de défendre leur dossier. Et justement, comment ça se passe si jamais un dossier est bloqué par faute de place ?
Logiquement, pour le cas des étudiants réfugiés, il n'y a pas ce problème-là. Bon, à Paris 6, comme ce n'est pas forcément le premier choix des étudiants réfugiés, on n'a pas eu le cas de devoir se battre, en tout cas, pour inscrire un étudiant réfugié. Dans d'autres universités, comme à Paris 1, il y a eu un accord qui a été fait pour que les étudiants soient accueillis. Il y a eu le Qatar qui a financé cet accueil, 600 000 euros par an pendant 3 ans, pour qu'ils soient pris en charge vraiment. Et on n'a pas eu encore à faire face à l'administration qui bloque un dossier d'étudiants réfugiés.
Généralement, un réfugié qui vient pour s'inscrire, il peut venir par exemple en plein milieu d'année et qu'il n'y ait plus de place justement pour qu'ils puissent s'inscrire. Donc pour l'instant, vous n'avez pas eu ce problème-là au sein de notre université.
Voilà. Et dans des universités, bon, comme j'ai cité Paris 8, c'est vraiment une chose sur laquelle les gens de l'UNEF se sont battus pour que, quelle que soit la période de l'année, en plein milieu du semestre, un étudiant réfugié qui fait la démarche de venir s'inscrire, de vouloir reprendre ses études, il puisse le faire.
Maintenant, on va parler un petit peu de droits des étudiants réfugiés. Alors, M. Omar Diallo nous a informé que les étudiants réfugiés avaient tous droit à une bourse d'AFI. Depuis 1992, le gouvernement allemand finance l'initiative académique annuelle Albert Einstein pour les réfugiés méritants du monde entier à suivre un enseignement universitaire. Et ce programme octroie des bourses aux réfugiés dans les universités et les instituts universitaires et technologiques de leur pays d'accueil. Et est-ce qu'il y a d'autres structures qui permettent d'aider les étudiants réfugiés, entre autres à l'université ?
Au niveau de l'université, les choses qui ont été mises en place, c'est par exemple des cours de français, des tutorats de master qui viennent pour aider les étudiants, les aider à s'intégrer. Au niveau des aides, c'est assez limité, que ce soit pour les étudiants réfugiés ou étrangers, ils n'ont droit qu'à l'APL et au FNU, voilà. Ça, le Fonds national d'aide d'urgence. C'est des aides qui peuvent être demandées auprès des assistantes sociales. Il y a un dossier à constituer et c'est une somme qui est délivrée en cas critique dans un état d'urgence.
D'accord. Et cette bourse d'AFI, t'en as déjà entendu parler ou...
Oui. Non, je vous avoue, c'est la première fois que j'en entends parler.
D'accord.
Et c'est une information qui nous a été donnée par M. Omar Diallo, qui malheureusement n'est pas là ce soir.
Une question cette fois-ci un peu personnelle. Si tu étais en mesure d'aider un réfugié, donc qu'il soit étudiant ou non, que ferais-tu pour l'aider? Voilà.
Bon, bah, comme ça a été souvent dit dans les interviews précédentes, moi aussi j'habite dans un petit appartement, donc je ne pourrais pas forcément loger un réfugié. Mais l'une des choses que j'essaye de faire, c'est d'apporter mon aide déjà au sein de mon association, en les recevant, en essayant de les orienter et tout ça. Et finalement, de manière personnelle, ce serait... je ne sais pas, les aider à s'intégrer au niveau de l'université, peut-être créer un groupe pour qu'ils se réunissent, pour peut-être essayer de trouver des gens pour essayer de faire des tutorats, de leur apprendre la langue française, ce genre de choses. Et les accompagner aussi au niveau d'administration, qui peut être un peu compliqué.
C'est sur ces derniers témoignages très touchants qui rejoignent le micro-trottoir que nous avons écouté juste avant cette rubrique et qu'on va conclure cette discussion. Merci à toi, Bouchra, d'être venu. C'est très gentil à toi d'avoir répondu et nous avoir apporté un tout petit peu plus de lumière sur la question des étudiants réfugiés.
Et merci aussi à M. Omar Diallo qui, même s'il n'est pas là, a tout de même répondu à nos questions.
Alors, c'est bien impressionnant tout ça. Merci beaucoup à vous tous. Un petit rappel. Donc, on était avec Bouchra Djellab, directrice de l'UNEF, Omar Diallo, donc, qui n'était pas là, mais qui est quand même chargée de l'accueil des étudiants étrangers à l'UPMC et qui a répondu aux questions. Et donc, ces deux personnes-là ont été interviewées par Afsa et Orental dans le cadre d'une émission sur les réfugiés en France. Vous êtes toujours sur Radio Campus et on vous retrouve juste après. Time for something new. D'écouter Trouble's Gonna Bring Me Down de The Milk. Encore merci les filles pour ces témoignages. Alors maintenant, on va passer à une chronique de Sven. Alors à toi Sven, de quoi vas-tu nous parler ?
Merci Elnor et bonsoir à toutes et tous. En parlant du sujet des réfugiés, la question que l'on doit se poser est comment pouvons-nous aider ces réfugiés et comment bien les accueillir ? J'ai fait une petite recherche sur les différentes associations mises en place pour aider les réfugiés. Il y a plein d'associations à Paris, en Île-de-France et en France, avec plein de bénévoles impressionnants qui luttent dans leur vie quotidienne pour améliorer la situation des réfugiés. J'en ai choisi deux parmi plein d'autres que j'ai trouvé tout à fait intéressants et originels. La première association que je vais présenter est Singa. C'est une association qui s'occupe de l'intégration socio-économique des réfugiés. D'un côté, ils s'occupent du logement des réfugiés en France en proposant des chambres libres chez des particuliers participants. D'un autre, ils organisent des soirées entre des Français, des migrants et des réfugiés pour les mettre à l'aise dans leur nouvel environnement. Aussi, ils leur donnent la possibilité de partager leurs sentiments et expériences, et cela en organisant des cours de langue pour eux. Alors l'asso est toujours en quête de bénévoles pour participer et aider dans leur programme. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter sur www.singa.fr, singa.fr. De plus, les réfugiés qui arrivent en France sont confrontés à un autre problème, l'administration. Heureusement, il existe une association fondée en Île-de-France avec un nom qui en dit déjà beaucoup sur ce qu'ils veulent partager. Pour une planète sans frontières. C'est des juristes et des interprètes qui s'occupent d'aider des réfugiés du point de vue juridique. Par exemple, leur accompagnement dans leur demande d'asile. Ils peuvent être contactés sur le site web www.pouruneplanetesansfrontieres.eu. En plus, Radio Campus Paris met à disposition une liste des associations en Île-de-France pour les réfugiés. Elle sera disponible sur l'article de cette émission sur le site web www.radiocampusparis.fr et n'hésitez surtout pas à nous contacter sous l'article de cette émission si vous connaissez d'autres associations qui ne sont pas mentionnées sur la liste qu'on puisse l'ajouter. On vous remercie d'avance. Bonsoir à tout le monde et je repasse à toi. Éléonore.
Merci Sven. Après cette présentation, on va parler de simples personnes comme vous et moi qui agissent aussi. Pour cela, on va écouter un étudiant qui s'appelle Baptiste Balik et qui va parler avec Sven de son engagement.
Donc Baptiste, je t'accueille dans le studio de Radio Campus. Et bonjour Baptiste.
Merci, bonsoir.
Tu étais en Grèce il y a 2 semaines, je pense, mais pas comme tout le monde pour voir des beaux voyages quand même, mais pour des autres raisons. Qu'est-ce que tu as fait là-bas ?
Oui, je suis parti en Grèce 3 semaines pour aider pour la crise des réfugiés. Donc je suis parti sur l'île de Lesbos, au niveau du village de Molivos, là où la plupart des réfugiés arrivent.
Et pourquoi tu as choisi d'aller en Grèce pour aider ? Quelles étaient tes motivations ?
C'était un peu aléatoire. En fait, une semaine avant de partir, j'avais du temps libre et j'ai décroché un boulot pour début novembre. Donc je me suis dit, j'ai 3 semaines, 1 mois de libre. Qu'est-ce que je peux faire ? Et en même temps, je regardais des trucs sur Internet sur les réfugiés. Du coup, je me suis dit, je vais aller voir un peu ce qui se passe par moi-même. On en parle beaucoup, mais au final, je voulais voir de mes propres yeux, puis aider un peu. Donc voilà, je suis parti.
Et c'était quoi ton première impression quand t'es arrivé ?
La première impression, c'est que c'est le bordel. Enfin, c'est que rien n'est fait, c'est que des volontaires. C'est vraiment l'impression générale que tout est fait vraiment sur le tard, sans beaucoup de coordination. Qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais qu'il faudrait un petit peu plus d'organisation. Et puis, ce qui est impressionnant aussi, c'est le nombre de réfugiés. C'est tout le temps, à toute heure, des réfugiés qui arrivent. Donc ça, c'est les premières impressions. Ouais.
D'accord. Et comment est-ce que tu as entendu de parler de l'association avec qui tu travaillais?
Bah alors, c'est en naviguant sur Internet. J'ai regardé différents articles. Je suis tombé sur une page Facebook, donc Help for Refugees in Molivos. Et puis, du coup, je leur ai envoyé un mail. J'ai envoyé un mail à 2-3 autres associations, dont la Croix-Rouge en Grèce. Et puis, c'est les premiers à m'avoir répondu qui m'ont dit « Oui, on a besoin de toi, viens quand tu veux ». Donc je leur ai répondu « Ok, j'arrive ». Donc c'est un groupe de volontaires, cette association, qui s'est montée vraiment pour la crise. C'est la fille, enfin la dame qui l'a créée, c'est une dame qui a un restaurant sur le port. Et elle a vu un bateau, deux bateaux, trois bateaux arriver. Et elle s'est dit « C'est pas possible, il faut faire quelque chose ». Et donc elle a monté petit à petit un camp de transit pour les réfugiés. Donc c'est que des volontaires. Et là, récemment, c'est devenu une ONG. À force de faire tellement de choses, ils ont eu le statut, ils sont passés de groupe de volontaires complètement inconnus à l'ONG Starfish.
Et l'expérience là-bas a changé la façon comment tu vois la crise des réfugiés en France ou en Europe, quoi.
Ouais, un petit peu, bien sûr. Ouais, déjà de mettre des visages, des histoires, surtout ces nombres, ces grands nombres, ça change pas mal. Après, bien sûr, ça apporte pas de solution évidente sur comment faire, mais ça apporte juste l'idée que bon, il y a un gros problème en Syrie. C'est pas évident de tous les accueillir en France, en Europe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas les laisser comme ils sont en ce moment dans cette galère. Donc, il faut d'abord les aider, puis après on réfléchira sur ce qu'on va faire. C'est pas possible de laisser des familles avec des enfants en bas âge, des femmes enceintes complètement dans la forêt ou sur des barques. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc il faut premièrement il faut aider et après on réfléchira, quoi.
Ça, c'est juste. Et qu'est-ce que t'as marqué le plus?
Le plus marqué, c'est le fait que tous ces gens, c'était des gens comme toi et moi, qui avaient une situation, qui étaient soit étudiants en école d'ingénieur comme moi, soit docteur, soit gérant d'un magasin de téléphone. Et puis ces gens, ils ont été surpris par la guerre. Et puis ils ont attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc ça, c'est ce que j'ai vu. Au bout de 4 ans, ils ont décidé de... Ils se sont dit, c'est plus possible, je vois pas d'avenir arriver. Il n'y a plus de futur. Et je vais pas laisser mes enfants se faire bombarder comme ça. Donc je prends mon sac à dos et je pars, je prends une barque. Et donc c'est vraiment le fait que ça pourrait nous arriver. On doit mettre toute notre vie dans un sac à dos et partir. Et ça, c'est vraiment marquant.
Voilà un témoignage bien touchant. Encore merci à Baptiste et aussi à Sven. Nous venons d'écouter The Keepers de Santigold et nous allons passer maintenant à Benjamin, étudiant engagé par sa musique, qui va nous parler d'un événement auquel il a participé en faveur des réfugiés. On fait une émission sur les migrants. Et donc, on aurait aimé avoir ton avis par rapport au concert là, que tu t'avais proposé de faire, enfin, auquel tu vas participer à Blois, donc le 7 novembre, qui s'appelle Concert de solidarité pour les réfugiés, c'est ça ?
Donc, c'est un concert organisé à la Maison de Bégon à Blois. Qu'on a l'honneur d'ouvrir avec mon groupe Skawax. C'est un concert, donc je crois que l'entrée est à 10 € et voilà, tous les groupes viennent bénévolement et le but c'est que tous les profits générés par cette soirée soient placés en faveur donc des réfugiés, un peu pour lutter contre tout ce qui se passe actuellement, je dirais.
Vous allez être combien de groupes à jouer là à peu près ?
On doit être 5, je crois.
Oui.
Donc alors je n'ai pas l'ordre, mais en gros donc il y a Skawax. Il y a The Sharpers, il y a Kibongo, il y a Tayazabe et Zoography. Donc c'est un peu de tous les styles. Tayazabe, c'est ceux qui se rapprochent le plus de nous, je dirais. Un peu ska, reggae, un peu festif. Bon, Skawax, c'est évidemment ska, reggae, rock festif. Zoography, c'est de la musique orientale. Kibongo, je crois que c'est vraiment orienté percussion africaine. Et enfin The Sharpers, c'est un petit peu blues, je dirais. Voilà, en gros.
C'est sympa tout ça. Et vous attendez à peu près combien de personnes ?
Autant que la salle peut accueillir, quelques centaines. Donc on espère qu'elle sera remplie.
Ah bah, nous aussi.
Vis-à-vis des réfugiés, je sais que nous, on a notamment à voir avec les organisateurs si c'est possible, mais ce qu'on aimerait faire pour marquer un petit peu un geste en plus, c'est donc nous évidemment on va avoir un stand de merch, on va vendre CD, t-shirts, pins, etc. Et on pensait donc reverser une partie de ces bénéfices aux associations en charge des réfugiés sur Blois en tout cas.
On remercie encore Benjamin pour sa participation et après le concert, on a eu les bilans. C'est-à-dire que la salle était complète avec 400 personnes et les bénéfices ont été de 8 000 € environ. On accueille maintenant un autre musicien, Tarafa. Afsa et Orental vont maintenant lui poser leurs questions.
Merci Éléonore. Et oui, chers auditeurs, nous passons maintenant à notre rubrique interview. Avec ce soir, notre invité spécial, Tarafa Saloul, plus connu sous le nom d'artiste Liquide et qui est un rappeur. Bonsoir Tarafa.
Bonsoir.
Alors, tu es d'origine syrienne, plus précisément de Damas, et tu as grandi en France, à Lyon, c'est bien
ouais,
ça ?
Ouais, tout à fait.
Alors, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où t'es venu ce penchant pour le rap ?
De façon assez naturelle, en ayant grandi à Vaux-en-Velin, en banlieue lyonnaise, où c'était un petit peu la bande originale du collège et de tout ce qui se passait autour de moi. Voilà, je pense que j'aurais peut-être grandi dans un autre environnement. J'aurais fait du rock si mon goût pour la musique... C'était également prononcé. Là, en fait, moi, j'ai toujours été très intéressé par l'écriture, en fait, avant d'être intéressé par la musique. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup écrire des petites choses, des poèmes, des petits textes pour moi. Et puis après, j'ai découvert le rap et j'ai trouvé que c'était un super moyen d'expression qui était, en plus d'être très intéressant, à la portée de tout le monde, entre guillemets, parce que j'ai pas fait de solfège ou j'ai pas eu de formation classique. Et ça a été pour moi un moyen très simple et assez libérateur en fait pour m'exprimer. Voilà. Et puis j'ai jamais arrêté.
Bien, tu es très épanoui. Est-ce que tu peux nous donner les thèmes qui sont développés dans ta musique et les messages que tu souhaiterais faire passer en fait ?
Bah, de façon générale, j'ai pas trop la prétention d'être militant par ma musique. Parce que c'est pas finalement les sujets que j'aime le plus aborder dans mes textes. Je parle de la vie de tous les jours et de choses très simples. Après, de toute façon, comme on dit, les thèmes et les sujets, ça se ramasse par terre. Après, c'est vraiment la façon de les traiter qui va donner un angle particulier et faire donner la particularité d'un artiste. Moi, j'aime bien avoir un regard un peu décalé, un peu second degré, un peu humour noir. Dans ce que je fais, enfin voilà, c'est ce que j'essaye de donner. Et après, plus généralement, dans ma musique, j'aime bien mélanger différentes influences. Ça peut être de la musique électronique, pas mal de musique arabe aussi, et essayer d'en faire un truc un peu différent, quoi.
Eh bien, en parlant de tes musiques, tu nous as préparé une petite playlist. Eh bien, on va en écouter un petit morceau.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on va écouter là tout de suite, c'est un extrait du projet qui est à venir, qui est donc une compilation dont j'ai l'initiative. Donc, c'est un album instrumental, en l'occurrence. Et donc, le premier morceau qu'on va écouter, c'est un morceau d'un certain Chicho Cortez. Et le morceau s'appelle Zartari.
C'était Zartari de Chicho Cortez. On repasse à Afsa Orental et pour l'interview de Liquide.
Juste pour réexpliquer, donc, ce morceau donc, est d'un ami et un collègue qui s'appelle Chicho Cortez. Donc, moi, j'ai été à l'initiative de l'album qui est en préparation. Mais ce morceau, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui l'ai composé.
D'accord.
Je peux vous dire un peu plus globalement le cadre et le contexte du projet où en fait, on a réuni une vingtaine d'artistes qui sont tous des artistes instrumentaux, donc vraiment des compositeurs hip-hop, des beatmakers, comme on dit chez nous. Et l'idée, moi en tant que Syrien, je suis ce qui se passe évidemment là-bas depuis le début du conflit, depuis 2011. Et depuis le début, je me dis que j'ai envie de m'exprimer sur la chose. Et je me suis jamais senti vraiment légitime parce que je pense pas avoir non plus une analyse politique incroyable. Et je pense qu'il y a d'autres gens qui peuvent le faire mieux que moi. Donc j'avais quand même envie de contribuer, de faire quelque chose. Et donc, on a mis en place ce projet où on a réuni une vingtaine d'artistes pour faire un album qui va aider à une association qui est basée en Turquie, à la frontière, donc à la frontière syrienne, où il y a énormément de réfugiés et beaucoup de camps de réfugiés. Et en fait, j'ai été mis en contact avec une association qui s'appelle Syrian Dream et qui est gérée par une Syrienne là-bas et qui s'occupe de l'éducation et de la scolarisation des enfants dans les camps de réfugiés. Donc l'idée, c'est un projet qui va aider, on l'espère, à donner des moyens et à envoyer un peu d'argent à cette association qui s'occupe d'aider les enfants à avoir des cours, des leçons, du matériel, un ordinateur pour pouvoir travailler avec une classe, etc. Le projet en lui-même, c'est un projet qui est entièrement instrumental. C'est une compilation techniquement dans le sens où il y a une vingtaine d'artistes différents, comme je disais. Ouais. Et c'est assez volontaire que moi je n'interviens pas artistiquement vraiment dessus et que je rappe pas et que et j'avais envie aussi pour différentes raisons de que ce soit un projet instrumental aussi parce que j'ai envie que ce soit un projet humanitaire avant tout et qu'il ait pas trop de coloration politique. Et du coup, le fait de faire un projet instrumental sans parole permet vraiment de servir la cause pour laquelle on fait ce projet et pas de noyer le propos avec des textes de rap qui peuvent être plus ou moins bien interprétés par les gens, plus ou moins maladroits, etc.
D'accord. Voilà. Et en parlant des musiciens justement qui participent à ce projet, est-ce que c'est la première collaboration ou est-ce que vous avez déjà fait un travail avec eux ?
Bah, ça dépend. En fait, j'ai contacté pas mal de gens différents. Donc il y a certains artistes de qui je suis très proche et avec qui je travaille depuis très longtemps. Et il y en a d'autres que j'ai vraiment contacté pour la première fois. Que je connaissais pas ou que je connaissais seulement de réputation et je leur ai parlé du projet, de l'association, je leur ai envoyé des choses et c'est vraiment là-dessus que j'ai réussi à motiver des gens qui, certains artistes, il y a quelques gros artistes comme Vincile ou Guts qui ont été très sensibles à la cause et avec qui j'avais jamais travaillé auparavant quoi.
Et ils sont tous des rappeurs ou ils s'intéressent à des domaines différents.
Ouais, ils sont tous hip-hop, disons, compositeurs hip-hop. Donc, certains sont aussi rappeurs et certains sont plus dans des domaines musique électronique ou des choses un peu plus expérimentales. Donc c'est assez, c'est finalement assez large, mais
diversifié. Ouais, il y a de tout.
Ouais, mais la teinte, elle reste rap quand même avant tout.
Moi, j'aurais une petite question pour toi. Oui. Est-ce que ça a été dur de les convaincre en fait, de faire partie de ce projet ou est-ce qu'ils ont tout de suite été séduits par l'idée ?
Et bah, franchement, la plupart ont été emballés très très rapidement. Je suis même surpris de la facilité avec, avec laquelle j'ai réussi à convaincre les gens. Et ça m'a fait plaisir d'ailleurs parce que j'ai lancé ce projet il y a à peu près 6 mois. C'était juste avant en fait, vraiment... la surmédiatisation, enfin ce qui n'est pas surmédiatisation mais la médiatisation massive de la question des réfugiés avec les arrivées en Europe, etc. Oui. C'était vraiment juste avant, donc finalement c'était une question qui était moins sous les feux de l'actualité qu'aujourd'hui, et pour autant j'ai vraiment été hyper bien accueilli par tous les gens que j'ai contactés. Alors il y a une ou deux personnes qui n'ont pas voulu participer au projet parce que je sais pas, ils comprenaient pas le truc, non, pas envie de se mouiller sur la question des réfugiés parce qu'on comprend rien.
Des fois les gens ils ont un peu peur de toucher à ce sujet, ils se sentent pas prêts peut-être de parler politiquement ou...
Ouais de s'engager sur un truc. Alors après franchement c'est comme s'engager pour la paix quoi, je veux dire, dans l'absolu c'est facile hein, c'est pas prends pas des risques énormes et je sais pas, il y en a certains qui ont pas voulu répondre à mes demandes, mais c'est très rare quoi.
D'accord. Donc, heureusement.
Ouais non, du coup je suis hyper content de la façon dont ça s'est passé. Ouais.
D'accord. Et quelle date est prévue pour la sortie de l'album ?
Alors ça sera en janvier ou février. Il n'y a pas de date encore précise parce que en fait j'ai reçu vraiment l'album terminé, version définitive, juste avant de vous rejoindre une heure avant. Donc là c'est que maintenant qu'on va finir de travailler sur la pochette dans les prochains jours, envoyer en fabrication et tout ça, le temps de bien se coordonner aussi avec l'association qui est là-bas. Ça sera en début d'année prochaine.
Question qui se pose naturellement, où on peut se procurer l'album?
Alors j'espère partout, mais je peux pas vous répondre encore vraiment précisément. L'album s'appelle Amal et il y a un site internet qui n'existe pas encore, mais qui on a déjà pris le nom de domaine. S'appelle projetamal.com, donc www.projetamal.com, tout attaché. Et voilà, très rapidement, on va commencer à diffuser des informations, peut-être mettre en place quelques événements à Paris et ailleurs autour du projet.
D'écouter une autre musique du projet que tu mènes, Tarafa. Parle-nous-en un peu plus.
Ouais, tout à fait. Alors ce morceau, c'était un artiste qui s'appelle Vincile, qui est pour le coup un des gros artistes, sans vouloir dénigrer les autres qui sont... mais un des artistes les plus connus, on va dire, du projet, qui est un mec qui est dans un groupe qui s'appelle C2C et qui était dans Hocus Pocus aussi. Donc voilà, et qui a fait ce super morceau pour le projet qui s'appelle Inertia.
D'accord, et donc c'est toujours sur de l'instrumental comme tu as dit.
Ouais, voilà. En fait, vraiment, sur le projet, tout est instrumental avec un peu de texture de voix. En fait, on a essayé un peu de créer une histoire avec tous les morceaux. En 2005, j'étais à Damas pendant quelques mois et j'ai enregistré plein de sons, en fait, dans les rues, dans les cafés, dans certaines soirées avec la famille, etc. Et en fait, on a utilisé toute cette matière sonore pour lier tous les morceaux. C'est-à-dire qu'entre chaque morceau, il y a un peu des ambiances de Damas telles que les Syriens et les autres l'ont connu avant la guerre, quoi.
Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Dans la première chanson, le petit enfant qui parlait.
Ouais.
D'accord.
Exactement, bah c'était ça. Ouais.
Ok. Ouais. Je pense que Bouchra avait des questions à poser à Tarafa.
Déjà, je voulais savoir comment tu avais pris contact avec cette association.
Alors, cette association, donc moi je suis syrien et mes parents sont très impliqués dans la cause des réfugiés et un peu toute la question syrienne de façon générale d'ailleurs. Et c'est en fait ma mère est partie avec cette association, enfin elle est partie pour cette association en Turquie il y a quelques mois pour aider à former des enseignants dans les camps. Ça fait partie un peu de la problématique de l'association, c'est d'avoir des enseignants qui soient formés à l'intérieur des camps, donc vraiment qu'ils puissent ensuite pas qu'on ramène des profs turcs ou français ou de partout qui vont ensuite partir et laisser les gens dans certaines difficultés. Donc du coup, elle est partie pour aider à former des gens là-bas. Et en rentrant, elle était complètement bouleversée. Une discussion avec elle où elle me disait vraiment que la question de l'éducation, c'était hyper important et que un jour, j'espère, il va falloir reconstruire le pays. Et on ne pourra pas le construire avec des générations d'analphabètes, de gens qui ont connu malheureusement que la misère et à qui on a rien appris. Donc voilà, je me suis dit qu'effectivement, c'était quelque chose de beau à défendre et que en tant qu'artiste, entre guillemets, c'était quelque chose d'assez juste et d'assez adapté, quoi. Et donc c'est à ce moment-là, c'est ma maman qui m'a mis en contact avec cette association et on a travaillé le projet comme ça.
Moi, j'ai eu une question un peu politique.
Ouais.
Alors, le sujet des réfugiés syriens, c'est un sujet qui date, je suppose, de 2011, même avant. Et pourquoi on commence à en parler juste maintenant et ça fait cette grande...
On en parle.
Médiatisation.
Ce que je peux dire, moi, de ce que j'ai vu... de mon expérience un peu personnelle et familiale. Si on en parle maintenant, c'est parce que c'est que maintenant qu'ils arrivent vraiment en Europe. Mais en réalité, depuis 2011-2012, ils sont déjà des millions en Jordanie, en Turquie, au Liban. Ça, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, ils sont toujours beaucoup plus nombreux là-bas. Il y avait déjà quelques réfugiés qui arrivaient, mais c'était souvent ceux qui étaient vraiment très identifiés comme étant des opposants politiques au régime. Donc on arrivait à faire sortir. Et pour eux, c'était plus facile, en tout cas possible, d'obtenir un statut de réfugié en Europe. Ensuite, au fur et à mesure, il y a des gens qui ont commencé à partir à l'aventure et à réussir à traverser les frontières et à rejoindre l'Europe. Et puis, ces personnes-là, elles ont commencé à passer le mot à d'autres qui étaient proches, à l'intérieur. Oui. Moi, j'étais l'été dernier en Jordanie, où j'ai des cousins qui étaient réfugiés là-bas. Et je voyais, ils étaient sur des groupes privés Facebook, où plein de Syriens qui partaient de Syrie, de Jordanie, de Turquie, du Liban pour rejoindre l'Europe, se passaient tous les bons plans entre eux. Se disaient, bon alors attention, il ne faut pas passer par là, avec des géolocalisations hyper précises, des numéros de téléphone de passeurs, des trucs, mais vraiment des trucs incroyables. Et en fait, c'est un groupe Facebook où tout le monde s'entraide. Mais ils sont genre 100 000 hein, sur ce groupe, c'est vraiment un truc de dingue. Et eux, ils regardaient ça. Et puis, je suis parti de Jordanie, je suis rentré en France. Et deux semaines après, ils m'ont dit, bon, on arrive, on part. Mmh. Et ils sont partis en suivant ce qu'ils ont vu sur ce groupe, en prenant contact. Donc, en fait, les gens s'organisent. Et grâce finalement aux nouveaux moyens, aux nouvelles techniques de communication, les gens s'entraident. Et je pense que c'est ce qui a fait que, avec en plus le... les annonces de l'Allemagne à un moment qui ont encore plus accéléré les choses. Mais de toute façon, c'était déjà trop tard, entre guillemets, puisque le processus était en marche. Les gens débarquaient, quoi.
Enfin, tu as vraiment cette proximité avec les réfugiés. Tu as parlé de tes cousins.
Du coup, là, ils sont arrivés. Ouais. Ils sont arrivés il y a un mois, un peu plus, non, peut-être deux mois maintenant, en Allemagne. Et du coup, j'ai suivi leur aventure, mais vraiment pas à pas, quoi. Ils étaient en Turquie, ils ont galéré pour traverser, ils se sont fait arrêter en pleine mer par des gardes-côtes, ils sont rentrés, j'ai vraiment tout suivi. À un moment, ils se sont retrouvés dans un camp de l'ONU, ils sont enfuis, et finalement, ils se sont fait arrêter en Allemagne. Bon, là où, de toute façon, ils espéraient se faire arrêter, donc tout va bien. Et puis là, ils sont dans un camp et ils attendent depuis quasiment deux mois, ils attendent qu'on leur... leur donne un statut ou
Donc en fait, quand ils quittent la Syrie pour venir par exemple en Europe, c'est entre parenthèses des clandestins, c'est pas légal. Moi je savais pas, je croyais qu'ils avaient des papiers justement pour venir en Europe.
Non, c'est hyper rare, ça peut arriver, mais c'est vraiment très rare. Ceux qui arrivent à avoir des papiers, c'est qu'ils sont en général, ils sont déjà arrivés depuis longtemps ou ils sont déjà morts depuis longtemps, parce que c'est ceux qui sont très très actifs et très visibles dans la rébellion, en fait. Quand je dis la rébellion, il y a beaucoup de ce qu'on appelle journalistes ou des gens qui sont sur le terrain, qui racontent un peu ce qui se passe, qui envoient des vidéos, qui font plein de choses, quoi. Ces gens-là, ceux qui sont partis tôt, vers 2012, ils ont réussi à avoir des papiers assez facilement en étant là-bas. Aujourd'hui, c'est tous ceux qu'on voit débarquer, c'est tous des aventuriers. Hein. Mm-hmm. C'est pour ça d'ailleurs, on parle vachement les gens là, qui voient d'un très mauvais œil, qui disent tous ouais, mais regardez, là, c'est quasiment que des hommes, des jeunes, ils ont tous des téléphones portables. Enfin, d'un téléphone, un smartphone, ça a jamais arrêté les bombes de toute façon, et c'est parce que ces gens-là fuient parce qu'ils ont peur d'être embrigadés dans le service militaire. Il y a plein de choses qui font que. Qui font que ces mecs débarquent et c'est en clandestin total, quoi.
Ok.
Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Ouais. Et on ne peut que vous encourager dans la suite de vos projets. Et merci d'être parmi nous.
Merci à vous.
Et bonne chance pour la suite.
Bah, vous aussi, merci.
Merci beaucoup à tous. Alors, tous chez votre disquaire préféré pour se procurer cet album fabuleux qui s'appelle donc Amal. Alors, que vous soyez dans une association ou pas, que vous soyez investi dans cette cause ou pas, tout le monde, et je dis bien tout le monde, peut faire un geste à son échelle. Donc notre émission touche à sa fin maintenant. On remercie donc encore tous les gens qui ont bien voulu y participer en répondant à nos questions. Et entre autres, Bouchra Djellab, présidente de l'UNEF, Paris 6, Omar Diallo, chargé de l'accueil des étudiants étrangers à l'UPMC. On remercie aussi Baptiste Balik, Benjamin Desbois et son groupe Skawax. Et enfin, Liquide. Bravo à tous les animateurs AFSA, Sven, Jules et Orental, sans qui ce projet n'aurait pas pu aboutir. Nous aimerions également remercier une personne en particulier qui a su nous motiver, nous expliquer, nous former et nous supporter. Un grand merci à Mélanie et ainsi qu'à Victor qui nous a aidés pour la technique. On termine avec un morceau de Bone Trips qui s'appelle Daraya.